C'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Théo Hesch.
Bonjour.
À deux jours de notre fête nationale, la nation est partout dans les journaux.
Un drapeau turc brandi devant la basilique Sainte-Sophie en une du monde. Pardon, la mosquée Sainte-Sophie, puisqu'elle redevient officiellement un lieu de culte musulman. Le quotidien du soir revient sur les raisons de ce basculement. Principalement le projet néo-ottoman du président Erdogan, qui flatte sa frange la plus religieuse et nationaliste. Bref, comment le chef du parti islamo-conservateur utilise la religion pour faire nation et comment il revendique une revanche sur l'histoire 86 ans après qu'Atatürk ait versé Sainte-Sophie dans le pot commun de l'humanité. Et cet article résonne de manière assez inquiétante avec un autre à l'intérieur du quotidien sur le poison du déni dans les Balkans. Hier, on commémorait le 25e anniversaire du massacre de Srebrenica dans un contexte de négationnisme. Le reporter du Monde, Rémi Ourdan, nous emmène en Serbie et en Bosnie-Herzégovine et nous montre comment, je cite, « le poison du déni permet de poursuivre dans la paix les objectifs de guerre, la séparation entre les communautés ». En Serbie, mais aussi en Croatie ou en Bosnie, le déni est dans tous les camps. Le pire étant peut-être à Visegrad en Bosnie, la cité d'Andrigrad, j'espère que je prononce bien, bâtie sur un lieu de crime, mais où tout est fait pour l'oublier et promouvoir une histoire serbe. On se promène sur le pont Sokolovic en jambant la Drina, en faisant semblant d'oublier que c'est là que les miliciens du chef de guerre Milan Lukic plantaient leurs couteaux dans le dos des prisonniers bosniaques et les jetaient dans la rivière, écrit le reporter. Bref, il montre comment les passions pour des nations ethniquement pures regagnent du terrain.
Sauf que les groupes discriminés ne restent pas immobiles, c'est ce que montre le journal du dimanche qui nous emmène aux États-Unis.
Ah oui, vous connaissez peut-être la NRA, le lobby des armes. Eh bien, depuis 2015, il y a une NRA pour les Noirs, la National African American Gun Association. À l'époque, nous étions trois, raconte le fondateur. 5 ans plus tard, ils sont 35 000. Et à chaque fois qu'un Noir américain est tué par la police, l'association engrange de nouveaux adhérents. Après la mort de George Floyd, nous avons eu 2000 nouvelles inscriptions en 48 heures, raconte-t-il, avec un constat glaçant. Être armé des deux côtés est une sorte de dissuasion nucléaire. Personne n'osera appuyer sur le bouton. Étrange façon en tout cas de faire nation.
Les problèmes de cohabitation entre communautés, ce n'est pas que chez les autres, nous dit aussi la presse ce matin.
Pas dans la même proportion évidemment, mais le magazine Society montre une situation sensible à Beaucaire dans le Gard, ville conquise par le Front National en 2014 et où le maire Julien Sanchez a été réélu au premier tour avec plus de 60% des voix. Une ville où ces dernières années de nombreux Sud-Américains sont arrivés, des Équatoriens notamment, fuyant la crise au début des années 2000, arrivant en Espagne, puis travaillant 6 à 8 mois de l'année chez les producteurs de fruits et de légumes de ce côté de la frontière. Certains se sont installés, ils travaillent, consomment, redonnent du souffle à une ville vieillissante, mais pour les habitants déjà présents, ils sont tantôt trop catholiques, ne veulent pas s'intégrer et restent entre eux. Alors on les ignore, c'est la stratégie adoptée par le maire, écrit le magazine, qui a exigé à tous ses services de ne pas parler en espagnol avec ses nouveaux venus. Dans le même temps, les cours de français de la mission locale ont été drastiquement diminués. Un couple d'origine équatorienne témoigne par exemple. En 4 ans à Beaucaire, on a été convié à une seule manifestation traditionnelle. Cette manifestation, c'était un concours de soupe. On l'a gagné, rétorque fièrement le couple. La presse nous montre aussi des raisons d'espérer dans tout cela, comme cet entretien dans le journal du dimanche avec le premier officier noir à commander l'école de guerre, l'école des cadres de l'armée, le général Jean-Marc Vigilant, fils de parents martiniquais. Lucide, il constate le faible ratio de noirs dans l'encadrement de l'armée par rapport à leur place dans les hommes de rang, mais il montre de l'envie, du panache aussi. Le mot impossible, je l'ai rayé de mon vocabulaire, dit-il. Il faut susciter chez les enfants de la diversité l'envie de passer les concours, de ne pas se mettre de barrière.
La jeunesse ambitieuse et investie pour un avenir commun, c'est aussi ce que montre le magazine L'Obs.
Il refait 55 ans après le cliché des yéyés dans Salut les copains, une photo du siècle. 47 jeunes militants associatifs, entrepreneurs qui se veulent symboles d'une nouvelle génération engagée. Deux exemples, Lorraine Bastide, animatrice du podcast féministe La Poudre, ou encore Sarah Durieux, directrice de la branche française de Change.org, la plateforme de pétition. L'Obs se fait le constat, 55 ans plus tard, le besoin de sérieux s'est substitué à la futilité. Les yéyés ont perdu leur « et », place à la génération Y engagée. Une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances, c'est la définition de la patrie par Fustel de Coulanges. On peut rajouter un élément, le territoire, et c'est le Parisien qui nous emmène dans une balade étrange sur les chemins de notre pays avec un cartographe 2.0, Christophe Coulot. Il cartographie pour Google Maps les sites et chemins touristiques uniquement accessibles à pied, à vélo ou en canoë. Il se balade en fait avec une longue perche d'1,50 m avec une caméra à 360 degrés au bout. On le suit le long de la plage de Cailleux-sur-Mer dans la baie de Somme et sur le sentier du littoral. Ils ne sont qu'une poignée comme lui dans le monde, explique le quotidien. Un Italien, un Sud-Africain spécialiste des parcs nationaux et un Ukrainien qui a photographié la zone de Tchernobyl. Christophe Coulot, lui, a cartographié notamment Tahiti et une grande partie de la Polynésie française. Désormais, dans la Somme, l'Office de tourisme veut lui faire numériser les pistes cyclables du département.
Et puis la nation, c'est aussi de grandes figures, Théo, des héros.
Le Républicain Lorrain nous fait rencontrer l'un des héros qu'Emmanuel Macron veut mettre à l'honneur après-demain pour le 14 juillet. Une famille de Saint-Avold en Moselle, dont le père, aide-soignant, est décédé du Covid. Roland Nassois avait 61 ans, 42 ans de carrière dans l'hôpital public et 3 enfants, dont Vincent. Mon père était très présent pour les autres, raconte-t-il. Il avait plusieurs projets, notamment de remettre en valeur les calvaires de villages mosellans. Il laisse un vide immense derrière lui. Un vide aussi au Royaume-Uni, nous raconte le quotidien L'Équipe, après la mort d'un héros national, l'ex-défenseur de l'équipe d'Irlande, aussi ex-défenseur de l'équipe d'Angleterre, aussi ex-sélectionneur de l'équipe d'Irlande. Un héros pour deux nations, Jack Charlton, mort vendredi à 85 ans. Il avait mené le trèfle irlandais en quart de finale de la Coupe du Monde 1990. Citoyen d'honneur de Dublin, il reste le héros national qui a battu l'Italie en 1994. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, disait Ernest Renan. Par la religion, l'histoire, les grandes figures et le partage d'idées communes, une nation apaisée est un savant mélange et la presse nous le montre.
C'était la revue de presse de Théo Hetsch. Merci à vous, France Inter. Il est 8h47.